Eh bien, mes amis, au début de cette année, je crois que le Saint-Esprit a vraiment voulu arrêter nos pensées sur les béatitudes. Partout, dans ces premiers jours de l'année, nous avons entendu les médias d'information nous donner de mauvaises nouvelles, les chefs des peuples, qui sont pourtant d'une idéologie très différente, s'accordent pour prédire une année désastreuse. Et le Seigneur, qu'a-t-il voulu nous dire au début de cette année? À nous qui devons faire contraste avec le monde, qui vit dans la crainte, qui vit réellement sans espérance et sans Dieu, bien, il a voulu nous montrer un chemin où nous pouvons nous engager dès ces premiers jours de l'année avec l'assurance que nous connaîtrons le bonheur. Hier, donc, nous nous sommes arrêtés sur la première des sept béatitudes que nous trouvons dans le dernier livre de la Bible, qui est l'Apocalypse. Et je répète cette béatitude bienheureuse, verset 3 du chapitre 1er de l'Apocalypse. Celui qui lit et ceux qui entendent ou comprennent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Et après nous être arrêtés sur le bonheur de ceux qui appliquent leur cœur à la lecture de la parole de Dieu et qui cherchent à comprendre ce que le Seigneur a voulu leur dire et qui, mieux encore, vont plus loin en mettant en pratique, en obéissant à ce qu'ils ont saisi, eh bien, ce matin, le Seigneur nous a occupé d'une béatitude que nous trouvons dans les psaumes. Ce psaume premier qui vient de nous être chanté par notre frère. La première béatitude des psaumes, des 150 psaumes. Et vous avez pu remarquer combien ce sujet d'hier était lié à celui de ce matin. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'était notre sujet ce matin. Et pour cet après-midi, pour ce dernier message, le Seigneur m'a conduit à vous souligner la première des 8 béatitudes évangélique. On se dispute quelquefois entre théologiens pour savoir s'il y en a eu 7 ou 8. Il semblerait, d'après les manuscrits, qu'il y en avait 7, mais qu'on en a dédoublé une. Mais peu importe, nous prenons la première de ces béatitudes que Jésus lui-même nous a donnée dans son ministère. Et quand je vais en Israël, et c'est assez souvent que je suis dans ce pays, je suis toujours ému en me disant que je dois prêcher, que je dois parler dans le pays même où Jésus a enseigné. Je me souviendrai toujours en 1958, la première fois que j'étais à Nazareth, j'étais arrivé un soir de sabbat, le sabbat commence le vendredi, et à 7h du matin, je devais prêcher dans l'hôpital arabe de Nazareth, et je me disais, là, dans la ville où Jésus a été élevé, que sais-tu? Que vas-tu dire à ces gens qui aujourd'hui vivent à Nazareth? Je vous promets que cela nous met réellement à notre place. Comment ouvrir notre bouche dans cette ville où Jésus semble être resté silencieux pendant 30 ans? Et quand il a commencé son ministère et qu'il y est venu, eh bien, on l'a chassé de la synagogue en voulant le précipiter de la montagne, cette montagne que l'on voit quand on est à Nazareth et qui s'appelle la montagne de la précipitation. Alors, qu'est-ce que dire ? Eh bien, ce qui me frappe toujours, quand je me replace dans ce pays où Jésus a enseigné, c'est qu'on disait de lui qu'il ne prêchait pas comme les docteurs de la loi de son temps. Et quelle était, au fond, la différence que le peuple sentait entre l'enseignement de Jésus et l'enseignement des scribes et des pharisiens? Je me suis posé longtemps la question, et en étudiant de plus en plus la parole, je me suis rendu compte que ce n'était pas une doctrine qui faisait la différence entre l'enseignement de Jésus et l'enseignement de Moïse. Le Seigneur n'était pas venu pour abolir la loi de Moïse. Il n'apportait pas un enseignement contraire à Moïse. Il le complétait. Il le confirmait et il le complétait. De sorte que ce n'était pas dans la doctrine même que le peuple voyait une différence. Car que ce soit un docteur de la loi ou que ce soit Jésus, tous les deux résumaient la loi de la même manière. Les deux grands commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il y avait accord entre l'enseignement judaïque et l'enseignement de Jésus. Et pourtant les gens disaient qu'il y avait une différence. Mais parce que quand Jésus prêchait, on voyait qu'il vivait ce qu'il disait. Il vivait réellement ce qu'il disait. Sa doctrine était sa vie. Tandis que les docteurs de la loi, ils exposaient la doctrine de Moïse. Voilà ce que vous devez faire. Mais on ne voyait pas en eux l'incarnation de leur prédication. Et voyez-vous, le monde aujourd'hui a besoin d'une prédication que l'on incarne. Nous devons avoir une doctrine qui soit réellement notre vie et qui fasse notre vie. Et quand nous prêchons, il faut que le monde se rende compte que ce que nous apportons aux âmes, nous y croyons d'abord. Et puis ensuite que nous nous efforçons de vivre selon ces principes. Nous ne disons pas, nous ne prétendons pas que nous sommes à la hauteur de notre prédication. Mais nous cherchons à vivre selon l'enseignement que nous apportons. Et c'est ce qui caractérisait cet Esdras dont je vous ai dit quelque chose hier. Il est dit que Esdras, docteur de la loi de l'Ancien Testament, avait appliqué son cœur à lire, à connaître l'enseignement de l'Écriture, à le mettre en pratique et ensuite à l'enseigner. Ce qui donne une autorité à un prédicateur, c'est qu'il vive d'abord pour lui-même ce qu'il enseigne. Et cela, Jésus le vivait. Et c'est pourquoi, ce soir, pour terminer notre petite série, nous allons nous pencher sur la première de ces béatitudes, mais je vais la laisser dans le contexte. Alors, nous allons lire, si vous le voulez bien, dans la traduction seconde d'abord, puis je vous lirai ensuite dans le Nouveau Testament en français courant, comment cela a été traduit pour mettre davantage à la portée des humbles les paroles ineffables du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous ouvrons ta parole, nous allons la lire, nous mettre en contact avec ces paroles qui sont esprit et sont vie. Nous te demandons de ne pas nous laisser intactes par cette parole, qu'elle soit comme une épée à deux tranchants qui nous touche individuellement. Tu connais nos besoins, tu sais quelles sont nos pensées en ce moment, tu sais dans quel motif nous sommes venus dans cette assemblée et nous voulons te demander que tu nous atteignes toi-même et que tu nous donnes ton intonation, que tu nous donnes ton regard, ta bonté, ta fidélité, mais aussi ta vérité pour la seule gloire du beau nom de Jésus. Amen. Voyons la foule. Donc, Jésus était quelqu'un qui voyait la foule. Et quand il est dit qu'il voyait la foule, il voyait aussi les cœurs de cette foule et les besoins qui se trouvaient dans les terres. Et lui désirait répondre à ses besoins. Et quand il y avait toute une foule, il désirait qu'il n'y en ait pas seulement un ou deux qui disent « Ah bien, j'ai été encouragé, c'était pour moi. Hein. » Mais que tous puissent dire « Il y avait quelque chose pour moi. » Alors, il y avait toujours dans l'enseignement du Seigneur un ensemble de vérités qui permettait à chaque auditeur de se dire « Il y a une parole pour moi. » Comprenez-vous? Et c'est ça vraiment la vraie prophétie. Jésus était prophète, c'est-à-dire l'homme qui parlait non pas de lui-même, mais qui apportait la pensée de son Père. Il l'a souligné souvent, ce ne sont pas mes paroles, ce n'est pas ma doctrine que j'enseigne, c'est ce que j'ai entendu dire par mon Père. Et il nous révélait justement que la source de toute révélation était dans le cœur de Dieu. Du reste, c'est là qu'il habitait. Tout en étant sur la terre, il est dit que son cœur était dans le ciel. Il dit à Nicodème, il parle à Nicodème du Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il est sur la terre, mais en même temps, il est dans le ciel. Et c'est de ces vérités célestes qu'il veut nous parler. Alors, il voit la foule. Il voit les besoins de tous les cœurs. Et comme toute prophétie, il veut que sa parole apporte une édification, un enseignement qui fasse grandir les âmes, mais qui apporte aussi aux âmes une exhortation, c'est-à-dire qui les pousse à aller plus loin, qui les avertisse de certains dangers. Et puis il sait aussi que dans un groupe, il y a toujours des affligés. Alors il y avait toujours dans l'enseignement du Seigneur une parole de consolation. Et là, dans toute prophétie vraiment biblique, vous devez avoir ces trois éléments, comme je le souligne souvent. Il doit y avoir pour vous une instruction, un enseignement, n'est-ce pas, qui vous fasse grandir, parce qu'on a besoin de grandir. Il doit y avoir une exhortation, on a le besoin d'être repris, parce qu'on n'est pas parfait, on n'est pas arrivé. On court et puis on apprend à mieux connaître la parole et on se corrige par la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est pleinement inspiré de Dieu pour nous enseigner, nous convaincre et nous corriger aussi. Parce que voilà, on voit sur un point ou sur un autre, on n'est pas dans la ligne du Seigneur. Alors, on se laisse reprendre par la parole de Dieu. C'est pourquoi dans une réunion, eh bien, il y a des fois des paroles qui nous font peut-être un peu mal. Je sais très bien qu'il y a des gens qui aiment surtout qu'on leur passe la main dans le dos, qu'on leur mette de la pommade. Mais quelquefois, en mettant trop de pommade, on infecte davantage. Il faut des fois qu'il y ait le bistouri pour débrider un abcès. Hein. Et ça fait mal, mais ensuite, ça se nettoie. Alors, ne soyez pas étonnés si tout à coup vous dites, s'il a dit ça pour moi, mais moi je ne connais pas votre vie, je ne sais rien de votre vie. Je ne sais pas, c'est pas que je ne veux pas m'intéresser à votre vie, mais s'il y a une parole pour vous, c'est pas parce que quelqu'un m'a dit, vous savez, ça je trouve détestable quand un pasteur ou un ancien vient nous dire, vous savez, il y a justement une personne là, et on aimerait que vous disiez ceci ou ça. Dites-le vous-même, moi je ne fais pas vos commissions, et je ne veux pas que cette personne pense qu'elle est venue ici pour recevoir un shampoing. Je ne suis pas coiffeur. Alors, croyez-le bien, si une parole touche, dites-vous, je la reçois de qui? Je la reçois de l'Esprit. Et si même elle fait mal, moi, les réunions qui m'ont fait le plus de bien, c'est des réunions où j'ai eu mal. Vous savez, ce que ça m'a amené à faire, ça m'a délivré certaines choses. Hein. Parce que le Seigneur a mis le doigt sur une plaie de mon cœur, et après la réunion, j'ai dû aller m'humilier dans ma chambre, peut-être, ou faire une réparation à tel frère ou à telle sœur. Et voilà que ça débloque toute la vie d'une communauté. C'est ça. La parole doit avoir une action, c'est ce que je disais dans la prière. Elle ne doit pas nous laisser intactes. Les paroles que je vous dis sont esprit et sont vie. C'est pas simplement un lavage d'eau, hein. La parole est comparée à de l'eau. Mais alors, si c'est de l'eau sur les plumes d'un canard, ça ne change pas. Il faut que cette parole nous pénètre. lequel nous pénètre. Et alors on aura vraiment reçu une bénédiction. Elle nous console, oui. Quand Jésus vit les foules, il monta sur une colline et s'assit. Et ses disciples vinrent auprès de lui et il se mit à les enseigner en ces mots. Et notez bien qu'il est dit, donc il y a toute une foule, mais il y a d'abord autour de lui ses disciples. Alors vous dites ses disciples, vous qui êtes là. Hein? Eh bien dites-vous, c'est donc pour moi. Vous dites déjà disciple du Seigneur. Ben, si vous vous dites déjà disciple du Seigneur, c'est doublement pour vous. Vous êtes au premier rang de ceux auxquels le Seigneur s'adresse. Et que dit-il dans ce domaine? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Est-ce que vous comprenez cette expression? Est-ce que Jésus a voulu dire, parce qu'il faut lire, mais il faut s'y entendre, il faut comprendre, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Heureux les imbéciles. C'est ça? Les pauvres en esprit? Heureux les idiots. Heureux les crazy. Hein? Non, attention alors, c'est ça. Comment est-ce qu'on entend la parole? Comment est-ce qu'on la comprend? Voilà une première difficulté, mais qu'est-ce que ça veut dire? Être pauvre en esprit. Voilà une des difficultés. Hein? Comprends-tu ce que tu lis? Alors, faut pas nous arrêter. Et puis se dire, bon, je comprends pas, ça vaut pas la peine que je continue. On va continuer. Et puis c'est comme ça. Alors.
Car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, les doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde.
Heureux ceux qui ont le
cœur pur.
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera en 1982, hein, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Qu'en 1982, on dit toutes sortes de mal, mais dites à Dieu que ce soit faussement. Hein. Parce que quelquefois, on dit du mal de nous, mais pas toujours faussement. Mais c'est parce qu'on a donné occasion au mal. Et alors, on dit du mal de nous. Et bien, que nous soyons gardés de cela. Mais si c'est faussement qu'on dit du mal de nous, vous êtes en bonne compagnie. Hein. Parce qu'on a dit du mal du Seigneur Jésus. On a dit du mal de ses apôtres, on a dit du mal de ses saints, donc c'est dans le programme, hein? C'est dans votre programme de l'année que ça puisse arriver une chose comme ça, mais vous n'allez pas perdre ni votre paix, ni votre joie, et surtout, et voyez-vous, pour se justifier. On dit du mal de vous. Le jour viendra, et si vous priez pour celui qui dit du mal, que le Seigneur lui-même le couvre, le jour viendra peut-être que lui-même viendra vous demander pardon d'avoir dit du mal. Il avait cru. On lui avait raconté. Et surtout vous-même, quand vous entendez dire du mal de quelqu'un, qu'on est influencé par les uns, par les autres, et on ne connaît pas le fond des choses. réjouissez-vous. Donc ne perdez pas votre paix, ne perdez pas votre joie. Et soyez même dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant. Ainsi, si une chose pareille nous arrive, nous nous trouverons en compagnie de qui ? Des prophètes. Hein? Des prophètes qui ont été avant le Seigneur, et nous nous trouverons en compagnie même du Seigneur Jésus. Car le Seigneur Jésus a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Vous ne pouvez pas désirer ressembler au Seigneur et que le monde vous aime. Le monde n'a pas aimé. Le monde a rejeté le Seigneur. Faites attention, hein, parce que quand le monde nous aime bien, quand le monde nous flatte, c'est pas toujours parce que nous avons un bon témoignage, mais c'est parce que nous connaissons à celui qui veut être ami du monde se constitue, dit l'Écriture, ennemi de Dieu. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Jésus a connu l'adversité, Jésus a connu la haine du monde. Et il pouvait dire, ils m'ont haï sans cause. Et pourquoi est-ce qu'on haït le Seigneur? Parce qu'il est haï. Sa vie était une vie qui jugeait la vie des autres. Il n'est pas besoin de parler. Il était les gènes. Et ne vous étonnez pas que, même sans parole, votre présence en certains endroits ou dans certains lieux, je ne crois pas, où il y a un silence, on commence à parler, vous ne vous asseyez pas au banc des moqueurs, comme on l'a dit ce matin, vous ne vous arrêtez pas au chemin des pécheurs, et vous ne marchez pas selon le camp. Vous avez une autre direction à votre vie. Et alors, évidemment, votre présence même gêne. C'est très frappant. Il n'y a pas même besoin de parler. Vous êtes odeur de mort pour certains, mais vous serez aussi odeur de vie pour ceux qui doivent. Maintenant, je vous lis, pour ceux qui ont eu peut-être quelques peines à comprendre ce que le Seigneur a voulu dire, la traduction telle que nous la voyons dans le Testament en français. Quand Jésus vit les filles, il monta sur une colline et passa. Les disciples vinrent auprès de lui et il se mit à les enseigner en filles. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes. Voilà qui vous aide à comprendre. Pauvres en eux-mêmes. N'ont pas un esprit. Oh, moi, c'est assez fort. Dieu est plus fort. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je peux aller moi-même. Je peux tout posséder. Je peux tout comprendre de moi-même. Entrez justement dans la compréhension de l'Écriture. Voulez-vous être de ceux qui lisent, mais non seulement qui lisent, mais qui comprennent ce qu'ils lisent. Et voulez-vous être de ceux qui mettent en pratique ce qu'ils ont lu? Sentez votre impuissance. Sentez que vous n'avez pas de force. Sachez reconnaître que vous êtes pauvre. Pauvre en vous-même. Vous n'avez pas de moyens. Alors, et on verra pourquoi, si on s'arrêtera surtout sur cette béatitude, on verra. Exactement, non. Ça veut dire que c'est une habitude. Si tu domines, eh bien, pour vaincre, il vaut mieux que tu t'abstiens. Et c'est vrai. Alors, nous faisons une certaine violence, peut-être, et puis le Seigneur nous libère et nous délivre. Mais nous voulons nous voir comme nous sommes. Mais nous n'accuserons pas Dieu si nous avons un jour le foie malade, parce que nous avons trop bu, une cirrhose du foie. Oh, ma cirrhose. Mais oui, c'est ça, cirrhose. Parce que tu l'as voulu, ta cirrhose. À force de vouloir avoir le nez rouge, eh bien, tu as eu la cirrhose du foie. C'est ça l'Écriture. Alors, soyons justes. Hein.
Dieu veut que nous vivions dans la justice qu'on a nous-mêmes, c'est-à-dire que nous ne transgressions pas les lois naturelles. Si cela vous fait du mal, eh bien, vous ne le prenez pas. Vous comprenez que vous devez vivre dans la justice, vous devez vivre ici comme Dieu le demande. Voilà qui est peut-être plus clair pour certains. C'est pourquoi il y a ces traductions en français courant. Comprenez le bien, il y a eu des gens qui sont opposés terriblement, même ici au Québec, j'ai dû écrire des articles dans certains journaux religieux, en disant que c'est une abomination ce français courant, mais c'est complètement stupide. On a fait cela pour être à la portée des gens qui n'avaient pas un grand vocabulaire. Or, vous le savez bien, dans les grandes familles québécoises d'autrefois, tout le monde ne pouvait pas aller faire de hautes études et apprendre beaucoup de mots en français. Ils avaient un vocabulaire très limité. Alors, on a essayé de donner l'écriture sainte avec le vocabulaire le plus simple, le plus à la portée, le plus courant que tous puissent connaître. De sorte que pour moi, c'est le meilleur traité d'évangélisation. Alors après, vous prenez une version qui a peut-être d'autres mots et qui complète au fond ce que vous aurez lu. Mais quand vous lisez dans un livre des choses que vous ne comprenez pas, vous risquez de fermer le livre. Parce que je vais tout prendre le dictionnaire pour voir le sens de chaque mot, c'est un peu difficile. Tandis que quand vous comprenez ce que vous lisez, ça vous encourage à aller plus loin. Voilà pourquoi on a fait ce Nouveau Testament et maintenant l'Ancien aussi en français courant. Ce n'est pas parce qu'on a voulu nous éloigner du texte, mais on s'est souvenu que dans l'évangile de Jean, par exemple, vous savez que quel vocabulaire, combien de mots compose l'évangile de Jean? Il y a seulement 700 mots différents dans l'évangile de Jean. Tout l'évangile est écrit avec 700 mots, mais qui tiennent, plusieurs fois. Mais des mots très simples, les mots qui reviennent le plus souvent, c'est le Père, et puis donc. Savez-vous ce qu'on a constaté? C'est que il s'est incarné de tout Dieu qu'il était, il a revêtu un corps de chair. Et il nous faut toujours nous sortir de nous-mêmes, de notre situation, et nous mettre dans la peau de l'autre. Comment est-ce que nous réagirions si nous étions dans sa peau? Comprenez-vous? Si vous voulez l'aider, si vous voulez le comprendre, il faut d'abord que vous sortiez de vous-même, pour que vous vous mettiez sans le juger dans sa situation. Et c'est comme cela, en ne jugeant pas, que vous pourrez l'aider. Mais si vous restez au sommet de votre échelle, puis que vous lui parliez comme ça, hein, et puis vous lui dites, monte ici, hein, monte jusqu'à ma hauteur, à mon niveau. Non, c'est pas ce que Jésus a fait. Jésus est descendu à notre niveau. Et puis il nous a ramenés. C'est cela la miséricorde. Heureux les miséricordes. Eh bien, c'est cela que nous devons vivre dans cette année 1982, dont nous ne savons pas la fin, nous ne savons pas ce que seront les mois qui suivront, par quelles épreuves nous allons passer. Eh bien, Jésus nous dit, mais vous pouvez être heureux. Soyez commencé cette année avec bonheur, parce que même si vous êtes pauvre, même si vous avez des larmes dans cette année, même si vous n'êtes pas de ces violents, qui n'avez pas ce caractère-là, puis qui n'auront jamais ce caractère, eh bien, restez dans votre douceur. Restez miséricordieux, restez affamés de faire ce que Dieu demande. Alors, il vous sera dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, qui sont purs de cœur. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un cœur pur? Eh bien, un cœur pur, c'est un cœur qui est entièrement attaché au Seigneur. Ça ne veut pas dire que c'est un cœur qui n'a aucune faute, comprenez-vous? Mais la pureté de cœur, c'est un cœur qui est attaché au Seigneur. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que malgré toutes ses fautes, il aimait le Seigneur. Et c'est ça, avoir un cœur pur. C'est un cœur qui n'est pas à moitié pour le Seigneur, mais qui est entièrement pour le Seigneur. Mais même avec un cœur entièrement pour le Seigneur, il est possible, étant des hommes de chair, que nous ayons des manquements. Donc un cœur pur, ça ne veut pas dire un cœur qui n'a plus jamais rien à se reprocher. c'est un cœur qui se juge. C'est un cœur, quand je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans mon cœur, dans mes pensées, je m'en juge. Je le confesse au Seigneur, je m'en humilie, et je dis au Seigneur, combien c'est vrai que j'avais besoin de toi comme sauveur. Et comme on l'a vu ce matin, Jésus n'est pas mort pour rien. Quand il a pu dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ben, c'est à cause de moi, racine, qu'il a été abandonné. Parce que moi, j'aurais dû être abandonné totalement de Dieu. Bien, il était abandonné pour que moi, je ne le sois pas. Il était frappé pour que moi, je ne sois pas frappé. Et c'est cela qui vous donne de la reconnaissance. Et dimanche après dimanche, quand on prend la scène tous les dimanches, on se replace devant cet unique sacrifice fait une fois pour toutes, mais qui nous rappelle l'immensité de l'amour du Seigneur. Et on ne s'habitue pas. C'est pourquoi plus vous communierez, eh bien plus vous entrerez dans la jouissance du Seigneur, et plus vous verrez proche de lui, plus votre vie s'épanouira, et plus vous serez capable de voir Dieu dans l'Écriture. Car il dit, ils verront Dieu. C'est pas, ça ne veut pas dire que vous aurez des visions, n'est-ce pas? Et justement, il faut peut-être effacer, néantiser, comme disait Jean-Paul Sartre, néantiser toutes ces fausses visions. Hein. Parce que quelle vision est-ce que vous avez quand vous pensez à Dieu? Une grande barbe? Sur les nuages? Un grand-père? Non, mais c'était ça un peu dans le catéchisme autrefois, hein. c'était des choses comme ça. Alors, on avait une fausse image de Dieu. C'est pas ces images-là. Mais voir Dieu, c'est quand vous lisez sa parole, vous apprenez à le connaître, à voir les traits qu'il avait dans la personne de Jésus, son amour, sa douceur, sa bonté. Voir Dieu dans l'Écriture. Heureux ceux qui croient, qui crée la paix autour d'eux. Vous connaissez ces gens qui troublent la paix autour d'eux? Suffit qu'ils soient là pour qu'il n'y ait plus la paix. Ils ne sont pas des porteurs de paix. Ils n'ont pas à leurs pieds les chaussures de la paix. Bien heureux ceux qui procurent la paix. Quand vous allez dans une famille, quand vous allez faire une visite, hein, apportez-y la paix. C'est ce que le Seigneur veut. Même quand vous allez faire une visite chez des gens du monde, vous voyez cette maison-là, c'est pas bien qui l'habite, j'ai des doutes. Eh bien, n'allez pas avec ces sentiments-là. Allez-y avec un préjugé favorable. Il a dit, quand vous entrez dans une maison, dites, maudit soit cette maison. C'est ça? Non. Que la paix, mais vous ne savez pas qui l'habite. Alors vous avez demandé la paix, mais oui, c'est ça. Que la paix soit sur cette maison. Et s'il s'y trouve un homme de paix, il faut toujours croire qu'il peut y avoir dans une maison, même la plus épouvantable, comme réputation, qu'il peut y avoir un homme de paix. S'il s'y trouve un homme de paix, la paix viendra sur cette maison. Puis, si on vous rejette, ben vous ne perdrez pas la paix. Elle revient sur vous, je l'ai dit. C'est ça qui est magnifique. Nous perdons la paix. Mais non, mais la paix, elle reviendra sur vous. Vivre proche du Seigneur, c'est vivre dans cette communion intime avec lui. Et vous serez appelés fils de Dieu si vous procurez la paix. Heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils agissent comme Dieu le demande. Hein, c'est ça. Les actes de justice. Ils sont persécutés parce qu'ils agissent comme Dieu le demande. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent. Alors donc, si quelqu'un vous insulte en 1982, heureux, c'est fou, hein, d'insulter, comme tu devrais être heureux. Si on était chrétien, on s'encouragerait comme ça. Si je ferais, il m'a insulté, donc, sois heureux. Vous lui dites, oh ben écoute, c'est vrai, puis on en met encore plus, hein. On n'est pas ce frère à pardonner. Très bien, il m'a insulté, ce frère, toute soeur, elle m'a insulté, donc, c'est même, sois heureux, béni sois-tu, Seigneur, qu'elle m'a insulté, tu veux prier pour elle. Comme ça changerait les affaires, au lieu que ça prenne des mois nos disputes, qu'on ne se parle plus, hein, qu'on ne se voit plus. Et puis si on vous persécute, si mes mots au ment en disant toutes sortes de mal contre vous, parce que vous êtes mes disciples, heureux-vous, réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les ténèbres. Est-ce que vous savez ça? que si vous supportez de la souffrance, comme Jésus a supporté de la souffrance, si vous souffrez avec lui, vous régnerez avec lui. Vous aurez une grande récompense si vous avez manifesté le caractère de chrétien. Qu'est-ce que le caractère de chrétien? Lisez la suite du sermon sur la montagne. Si quelqu'un te frappe sur la joue, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tant l'autre, oui. Oh, ça m'intéresse pas. Il va faire ça. Moi, je sais me défendre, je suis pas une mauviette. Hein. Tu n'es plus dans la pensée du Seigneur. Il y en a un qui avait prêché là-dessus, un prêtre, je me souviens. Et alors, on a voulu voir si vraiment il mettait en pratique. Et puis il avait dit, si quelqu'un te frappe sur la joue, pensez à nous. Alors il y a un de ses auditeurs qui s'est placé sur le pont où il savait que le prédicateur allait passer. Et puis quand il a passé, eh bien, il l'a frappé sur une joue. Et le prêtre a tendu l'autre joue. Et alors il l'a frappé aussi. Mais ensuite le prêtre a soulevé sa soutane, c'était dans le sens. Il a pris le bonhomme et il l'a passé sur le pont. À partir du pont. Il a dit, oui, mais je t'ai pas dit ce qu'il fallait faire après. Alors, on est un petit peu comme ce frère. Hein. Ah oui, oui, on va aller un bout avec le Seigneur. Mais après, quand on a attendu l'autre jour, soi-disant, ça s'accumule. Hein. Et puis, attends, il me retrouvera quand même. On a voulu être stoïque et montrer qu'on dit selon le Seigneur. Mais au fond, c'est pas vrai. Alors, voyez-vous, c'est pas toujours littéralement qu'il faut voir les choses, hein, mais prendre le sens spirituel à tout cela, et nous dire que si nous devons souffrir, les prophètes aussi ont dû souffrir avant nous, et nous sommes donc dans leur bonne compagnie. Et je ne peux pas allonger. Pour ceux qui veulent méditer là-dessus, souvenez-vous que si Jésus a dit, c'est que lui était pauvre. Et il avait connaissance. Il disait qu'il ne pouvait rien faire sans le Père. Et qu'il ne pouvait rien dire sans le Père. Il ne se glorifiait jamais. S'étant anéanti, il était devenu l'homme totalement dépendant du Père. Il ne s'attribuait pas même ses miracles. Il disait, c'est le Père qui agit en moi. Alors, vous aussi, c'est ça cette pauvreté. Ceux qui se sentent pauvres. Si Jésus a pu dire ça, c'est qu'il était pauvre. Et puis, il pouvait parler de cette pauvreté. Parce qu'on voyait qu'il dépendait de son Père, jour après jour. Et non seulement cela, mais quand il dit heureux ceux qui sont affligés, ceux qui pleurent. Quelle a été la vie du Seigneur? Il n'est pas parlé des rires de Jésus, quoiqu'il a certainement ri, mais il est parlé des larmes de Jésus. Le plus court verset de la Bible, vous le connaissez, hein? Jésus pleura. Non. Il est parlé plusieurs fois des larmes de Jésus. Donc, il a été celui qui a su pleurer, pas sur lui-même, mais sur la peine des autres. Et puis qui a pu leur apporter une consolation. Et puis, quand vous continuez, vous voyez que Jésus qui a dit « Heureux les débonnaires », il était doux et humble de cœur. S'il a dit « Heureux ceux qui veulent vivre à la manière dont Dieu le demande », bien qu'est-ce qu'il disait ? « Moi, le Père, il est toujours avec moi parce que je fais les choses qui lui plaisent. » Il faisait toujours les choses qui plaisaient à Dieu. Il vivait selon la justice, quant à lui-même, quant aux autres, et quant à Dieu. De sorte que tout l'enseignement du Seigneur dans les Béatitudes, son autorité, c'est qu'il vivait ce qu'il disait. Vous voulez avoir l'autorité? De cœur, son cœur était entièrement pour le Père, alors il pouvait voir Dieu. Eh bien, pour commencer cette année, en liant ces trois béatitudes, celle de l'Apocalypse, pour la lecture de la Bible, pour sa compréhension, pour sa mise en pratique, celle du psaume premier, pour savoir ce que nous ne devons pas faire et ce que nous ne devons pas être pour être heureux dans l'année 1982, pour savoir quelle sera la part du juste en 1982, contrairement à la part des méchants, eh bien, après avoir vu tout cela dans cette béatitude du psaume premier, nous voyons maintenant quelle attitude nous devons avoir pour commencer l'année. Nous sentir bon. Est-ce que vous commencez l'année en étant gonflé? Vous risquez d'être vite à plat. Il faut commencer cette année en reconnaissant notre insuffisance. Parce que cette pauvreté dont le Seigneur nous parle, c'est la pauvreté qui caractérise l'enfance spirituelle. C'est vrai que quand les disciples ont dit à Jésus au chapitre 18 de Matthieu, qui c'est qui sera le plus grand dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un petit enfant et il l'a mis au milieu d'eux. Il a dit, si vous ne devenez pas comme un petit enfant et si vous ne vous convertissez pas, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, cette pauvreté, cette attitude dont je viens de vous parler, vous devez l'avoir au début de cette année. Seigneur, je ne suis pas un grand, je ne suis pas un fort, je ne suis pas un sage. Du reste, ce n'est pas les sages, ce n'est pas les forts, ce n'est pas les nobles que Dieu a choisis. Relisez chapitre 1er de la première épître aux Corinthiens. Il n'y a pas beaucoup de sages, pas beaucoup de nobles, pas beaucoup de forts parmi vous, hein. Pas beaucoup de riches. Ce sont des pauvres. Dieu a choisi les pauvres. Et le bonheur de Jésus, c'était d'annoncer l'évangile aux pauvres. Et quand Jean lui envoie sa délégation, Jean-Baptiste, du fond de sa prison, Jésus lui répond à ses disciples, « Allez, dites à Jean, voilà les miracles que Jésus fait, et l'évangile est annoncé aux pauvres. » C'était vraiment le signe messianique. Quand le Messie serait sur la terre, les pauvres auraient leur place, auraient leur part. Alors, nous-mêmes aussi, ayons cet esprit de pauvreté et donnons à la parole de Dieu réellement toute la place. Je voudrais terminer pour vous montrer cette importance de connaître la parole de Dieu et d'en vivre, de lire la parole, de marcher selon la parole et d'avoir le besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Il y a trois textes avec lesquels je terminerai mon exposé pour vous montrer qu'au début de l'Écriture, au centre des Écritures et à la fin des Écritures, nous avons la même exhortation. Deutéronome, chapitre 4. Vous voulez être heureux. Vous voulez que tout réussisse pour vous dans cette année. Deutéronome, chapitre 4. Pour souligner l'importance de la parole. Verset 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien. Je voudrais que vous souligniez ce verset dans vos Bibles. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. C'est un texte qui était dans mon cœur depuis mon enfance. Là, mon père m'avait enseigné ça. Tu ne dois rien accepter qui ne soit pas dans l'Écriture. Vous n'ajouterez rien et vous ne retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Non pas arrangés à la sauce moderne. Pas ça. Tel que je vous les ai prescrits, parce qu'il n'y a pas de changement ou d'onde de variation pour Dieu. Ce qui est appelé une abomination dans l'Ancien Testament, vous croyez que c'est quelque chose de bien dans le Nouveau? Une abomination dans l'Ancien Testament reste une abomination dans le Nouveau Testament. Ne dites pas autre chose. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor, c'était une idole. Hein. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui toutes vivantes. Voulez-vous être vivant à la fin de l'année, même si on a dû traverser bien des épreuves? Attachez-vous au Seigneur votre Dieu. Verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse. Ce n'est pas d'avoir été à des grandes écoles que vous aurez la sagesse. Mais votre sagesse, ce sera de mettre en pratique ce que vous connaissez. Ce sera là votre sagesse, votre intelligence, aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Voilà ce que le monde devrait pouvoir dire. Non pas parce qu'on peut montrer des diplômes universitaires ou autres, mais parce qu'on vit la parole. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu et l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que le Seigneur vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde attentivement sur ton âme. Quand, de temps en temps, une fois par année, aux grandes fêtes, à Noël, à Pâques, c'est la Trinité. Tous les jours de ta vie. Vous voyez que ça revient. Vous pourriez faire une étude sur tous les jours de ta vie. Hein, tous les jours de ta vie. De peur que, qu'est-ce qui nous arrive? Tu n'oublies, c'est vrai, on est oublieux. Tout d'un coup, tiens, mais j'ai déjà lu ce passage, mais j'avais complètement oublié. Tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les pour ne pas les oublier. Il ne faut pas seulement les apprendre, mais il faut les enseigner à qui? D'abord, si on a des enfants, à nos enfants. Tu ne dis pas où ils sont trop petits. Hein? Ces petits, savez-vous qu'ils louent déjà le Seigneur quand vous ne comprenez pas leur langage? Ils parlent en langue. Mais c'est une langue, oui. C'est une langue. C'est le Seigneur qui a dit cela. Hein. C'est par la bouche des petits-enfants et de ceux qui sont encore au sein que Dieu a établi sa louange. Alors, au lieu d'être énervé par le petit cri, les gazouillements de nos enfants, hein, dites-vous, il est en train de louer le Seigneur. C'est bon, ça. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants, si tu es grand-mère. Ne te lamente pas, tu as un travail qui t'attend. J'ai entendu un frère, que quelques-uns connaissent, il dit, c'est quand même pas drôle d'être le mari d'une grand-mère. Le mari d'une grand-mère, elle a le même âge que sa femme, puis tout à coup, ben, il voyant sa femme une grand-mère, parce que il avait un petit-fils, il dit, c'est pas drôle d'être le mari d'une grand-mère. Ça, c'est l'homme, un phallocrate, toujours nous les hommes. Il était grand. C'est pas drôle d'être la femme de grand-père. Ah ça, on ne le dit pas, nous autres. On voit toujours l'autre aspect. Comme nous avons besoin de réformer nos voies. Mais reprenez le chapitre 4. Il est beau, ce chapitre 4. Hein. Je n'ai pas besoin de le commenter plus. Mais soulignez le verset 2. Vous arrêtez dans votre cœur, dans ces premiers jours de janvier, que vous n'ajouterez rien et que vous ne retrancherez rien. Pour vous montrer l'unité de la parole, tournez maintenant au Proverbe chapitre 30, parce que ce que je suis très content que vous ayez vos Bibles aujourd'hui, parce que je veux que vous soyez convaincus que ce n'est pas mon enseignement, que c'est l'enseignement de l'Écriture. Hein. Proverbe chapitre 30, vous êtes donc au milieu de la Bible, après les psaumes, et au chapitre 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Donc voilà pour 1982. Vous avez un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Mais il faut le chercher en lui. Mais si je me sens tellement fort, je n'ai pas besoin de refuge, moi. Je suis mon refuge tout seul. Pas besoin de me réfugier. Je suis celui qui se croit debout. Prenez garde, finalement. Heureux ceux qui se sentent pauvres, hein, pauvres d'esprit, pauvres en esprit, c'est-à-dire qui ne sont pas ces esprits forts. Moi, je n'ai besoin de personne. Voilà comment parlent les esprits forts, ceux qui ne sont pas pauvres en esprit. Ce n'est pas des imbéciles dont il est question là. Alors, verset 6. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Alors, quand on vous dit quelque chose au point de vue doctrinal, par exemple, j'ai dit ça, j'ai dû enseigner pendant 2 ans à l'Institut Paul VI, et il m'est arrivé, évidemment, j'enseignais là uniquement des catholiques, d'arriver justement à des faits. Je leur ai demandé à ces jeunes, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que nous ne devons rien ajouter. On avait pris le chapitre 4. Oui. On prend maintenant ce chapitre-là. Vous n'ajouterez rien. Vous êtes d'accord? Ils ont tous dit qu'ils seraient d'accord. Nous prenons maintenant comme principe, nous n'ajouterons rien à ce qui est dit dans la parole. Ensuite, on arrive au dernier verset, au dernier chapitre de l'Apocalypse, à la fin de la Bible. Vous voyez, au début, donc dans le Pentateuque, au milieu dans les Proverbes, et maintenant, puisque vous croyez à la Bible, puisqu'on dit qu'on croit à la Bible, qu'elle est la parole de Dieu, lisons la fin de ce fameux livre de la Révélation où il est dit « Bienheureux celui qui lit », eh bien, verset 18. Là, vous devez aussi souligner ce verset. « Je le déclare, quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » Alors vous allez dire, ben, de quel fléau? Ben, vous allez lire l'Apocalypse. Puis peut-être que je reviendrai, qu'on fera des études sur l'Apocalypse. Parce que vous aurez déjà lu un peu. Hein. Puis alors on verra comment on peut comprendre l'Apocalypse. Ce sera une très bonne préparation. Parce qu'il faut, pour qu'on étudie ici l'Apocalypse ensemble, il faut que vous ayez vraiment une préparation. Hein. Alors, vous allez voir quels sont les fléaux. Si tu ajoutes, hein, prends ça au sérieux, celui qui ajoute quelque chose à la parole, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Ben, on ne vous voudriez pas. Une fois que vous aurez lu tous les fléaux qui vont venir sur le monde, quand Dieu jugera le monde. Et verset 19, et si quelqu'un retranche, donc vous voyez l'unité de la parole, hein, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie de la ville sainte décrit dans ce livre. Parce que il est promis que nous aurons part à l'arbre de vie. Ce qu'Adam n'a pas eu, hein, eh bien, nous pouvons l'avoir. Mais, pour cela, il faut rien ajouter et rien retrancher. Alors maintenant, au point de vue doctrinal, quand ce sera les témoins de Jéhovah ou bien des autres, ou bien certaines personnes qui insistent, eh bien, qui nous disent, ben voilà, on a pris cette règle, j'ai demandé à nos amis, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ils ont tous dit oui. Alors, je leur ai dit, et maintenant, vous allez me trouver Notre-Dame dans l'Écriture. Puis, secondement, vous allez me trouver les limbes dans l'Écriture. Puis, troisièmement, vous allez me trouver le purgatoire dans l'Écriture. Prenons seulement trois points comme ça. Alors, on a terminé. Puis, il devait me répondre l'après-midi. Et j'avais un petit bureau entre midi et 1h. On est venu frapper à ma porte. Il y avait 3 étudiants qui étaient là. Et on ne sait pas comment vous parler. On pourrait peut-être prier. Je dis, oui, ben, on va prier. Puis je dis, est-ce que je peux vous aider? Il dit, ben, pourriez nous aider à trouver Notre-Dame? Ah, je dis, ah, non, ça, je ne vous aide pas. Cherchez vous-même. Tout ce qu'on a ajouté, moi j'y trouverai Marie, et j'aime Marie, la mère bénie de notre Seigneur, mais qui n'a jamais été appelée Notre-Dame. N'est-ce pas? Parce qu'alors, il y en a des noirs, il y en a des rouges, il y en a des jaune. Il y en a de toutes les couleurs des Notre-Dame. Il y a celle du Cap, il y a celle de Pologne, il y a celle de Chine, il y a tout ce que vous voulez. C'est pas ça. J'aime Marie et j'aime à parler de Marie et des leçons de la mère bénie de notre Seigneur. Quelles leçons elle nous donne. Leçon d'humilité, je suis la servante du Seigneur. Qui me soit fait selon ta parole. Bien, si vous pouvez dire ça avec Marie, hein, au début de janvier, nous sommes les serviteurs et les servantes du Seigneur. Qu'en 1982, qu'il nous soit fait selon ta parole. C'est pas, Seigneur, que nous fassions des choses. Mais Seigneur, nous nous laissons faire par toi. Fais en nous ce que tu veux. Alors vous serez les vrais disciples de Marie. Hein? Les vrais enfants de Marie, c'est ça. Qu'il me soit fait selon ta parole. Son humilité et puis sa sérénité. Elle qui a accepté de devenir la mère du notre Seigneur alors qu'elle est fiancée à un homme qui ne va pas croire un seul instant qu'elle est enceinte du Saint-Esprit. Joseph n'est pas idiot. Pas plus qu'un fiancé à qui sa fiancée vient dire « Tu sais, je suis enceinte. » Comment ? C'est du Saint-Esprit. Vous croyez qu'il le croirait ? Aujourd'hui ? Le fiancé ? Sa fiancée qui vient lui dire qu'elle est enceinte du Saint-Esprit ? Vous croyez que Joseph était un stupide ? Il voulait la renvoyer. Puis c'est le Seigneur qui a dû intervenir et par un ange lui dire « Ne crains pas de prendre Marie chez toi. » Nous, nous n'avons pas les protestants, on a eu peur de prendre Marie chez soi. On n'a plus où en parler. C'est pas parce que une certaine religion a exagéré sur Marie que nous devions faire une croix sur Marie. Mais nous devions, au lieu de faire une croix sur Marie, nous devions suivre Marie jusqu'au pied de la croix, parce qu'elle est là. Et c'est ça qui est merveilleux. Hein? Humilité, sérénité, quand elle chante le Magnificat devant Élisabeth, alors qu'elle ne sait pas ce qui va se passer avec Joseph. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans cette année. Ben, vous pouvez chanter le Magnificat au début de janvier ? Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Vous savez, quand vous prêchez ça, puisque vous dites tout à coup dans l'auditoire, hein, vous êtes d'accord ? Oui. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'elle a dit, Marie ? Non, on va recommencer. Hein. Mon âme bénit le Seigneur. Et puis toute la salle va reprendre. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Je dis, stop de nouveau. J'ai pas peur de recommencer parce que. On récite souvent des prières plusieurs fois, hein, pater. Alors, on recommence. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Puis vous dites, stop, qu'est-ce qu'il a dit ? Puis les gens, tout à coup, ça est entré. Elle a dit, mon sauveur. Donc, Jésus a été le sauveur de Marie. Mais sans discussion, sans bousculer. C'est eux qui comprennent tout à coup à la troisième lecture, ou à la troisième récitation. Mais vous comprenez, on en a fait une redite et puis. On dit des mots sans les comprendre. Comme aussi, faites attention de ne pas chanter des paroles sans vous arrêter au sens profond des paroles. Qu'est-ce que vous dites ? On a chanté par exemple ce matin « Oui, prends tout Seigneur ». Et c'était « Oui, prends tout Seigneur, prends tout Seigneur ». Et puis voilà, tout à coup, il va vous prendre. Peut-être quelqu'un de très proche. Hein? On a dit « Oui, prends tout Seigneur ». Le Seigneur, tu ne peux pas me faire un coup comme ça. Tu me l'as demandé ce matin. Tu m'as dit même de prendre tout. Puis je te prends une chose. C'est peut-être pas honnête, c'est peut-être une toute petite chose. Une toute petite place à laquelle nous tenions. Oui. Seigneur, oui, prends tout. Bon. Quelle tête on peut avoir des fois dans les cultes. Puis quel mensonge on peut dire. C'est pour ça, il nous faut, mes amis, du sérieux. Je vous ai fait rire quand même. Mais je suis quand même sérieux. Non, mais vous comprenez, on peut rire aussi, mais on doit être sérieux. Le sérieux, c'est pas le type qui a avalé un manche à balai, puis trois coups de pied, puis, bah.